Bonjour mon ami, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous parler de la puissance de votre histoire. Saviez-vous qu'il y a des personnes dans la Bible à qui Jésus leur a dit d'aller raconter leur histoire? L'apôtre Paul a raconté son histoire encore et encore. Nous allons voir cela et puis je vais partager avec vous un peu de mon histoire. Alors accrochez-vous, enfilez votre casque de protection et c'est parti. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Vous savez, j'aime les histoires qui sont racontées dans les évangiles. En fait, toute la Bible est pleine d'histoires de personnes comme vous et moi, qui traversent des choses similaires et des personnes qui font face à des choses différentes. Et l'on voit Dieu intervenir dans leurs histoires et il les visite. Ils sont en voie de déchéance, mais Dieu intervient dans leur vie et ils prennent la direction du paradis. Il y a la destruction, la dépression et la maladie, et Dieu s'interpose et dirige les choses vers la bénédiction, la santé et la paix. Et je veux vous dire que Dieu peut intercepter les choses de votre vie, mon ami, et ce n'est pas par coïncidence que vous me regardez en ce moment, que vous entendez ma voix, non? Ce n'est pas une coïncidence. Eh oui, je vous parle. Il y a un Dieu dans les cieux qui connaît votre nom et il veut intercepter votre histoire pour que vous puissiez rendre témoignage à quelqu'un d'autre des choses puissantes qu'il a faites pour vous. Je suis assis ici aujourd'hui en face de cette caméra qui apparaît dans votre salon ou votre chambre d'hôtel ou peu importe où vous êtes en train de regarder ou d'écouter ceci, votre portable. Et je veux seulement vous dire, je suis un trophée de la grâce de Dieu. Sans sa miséricorde et son intervention dans ma vie, je ne serais pas ici. Parfois, je me dis, c'est vraiment un miracle que j'ai vécu assez longtemps pour être sauvé. Mon style de vie, mes folies et les nombreuses expériences de mort imminente que j'ai eues, à cause de ma propre folie et la bêtise de ceux qui m'entouraient. La Bible dit, « Celui qui se plaît avec les insensés sera détruit, mais celui qui fréquente les sages devient sage. » J'avais l'habitude d'être un compagnon des insensés, et j'ai participé à la destruction. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et me voici maintenant. Il y a une histoire extraordinaire dans Marc chapitre 5. C'est une histoire dont vous avez peut-être entendu parler, ou pas du tout. Mais c'est l'histoire d'un homme possédé par un démon qui vivait dans les tombes. Et je sais que certaines personnes pensent immédiatement, « Eh bien, c'était seulement à l'époque de la Bible. » Non, mon ami, les démons sont réels. Les pouvoirs des démons sont réels. Je pense que de nos jours, on envoie les gens dans un hôpital psychiatrique alors qu'en fait, le problème est spirituel. Ce n'est pas simplement un problème émotionnel ou physique. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le cerveau. C'est peut-être le cas, mais pas toujours. Et nous voyons cet homme ici. Il est dit, il, en parlant de Jésus et des disciples, Marc chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait, se blessait lui-même avec des pierres. C'est une histoire assez dramatique. Et une fois de plus, vous pouvez penser, « Oui, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Eh bien, moi, si. Lorsque j'étais encore un jeune chrétien, j'avais déménagé au Mexique. Je participais à des missions. Et nous aidions un évangéliste à organiser une croisade dans une zone rurale. Et ils avaient littéralement taillé le côté d'une colline pour la rendre plate et mettre des briques avec des planches de bois dessus. Je pense qu'on pouvait y mettre environ 1000 personnes. Et un évangéliste venait et il prêchait tous les soirs. Et l'évangéliste était un de mes amis. Eh bien, un jour, il y avait un type au sommet de la colline. C'était pendant une réunion dans la journée. Et il a commencé à jeter d'énormes rochers vers le bas dans la foule et à jeter des planches avec des clous plantés dedans sur la foule. Et il sautait de haut en bas, comme un singe sauvage. Il s'avère que son nom était Roré et il était possédé par un démon. Il était là-haut. Je m'en souviens encore très bien. Il y avait une femme dans la foule. Elle était enceinte. Elle a été frappée avec une grosse planche avec un clou dedans. Et ce gars dansait partout comme un animal sauvage, jetant des pierres et de grandes planches avec des clous dedans dans la foule. Et quelqu'un m'a regardé et a dit, « Bélès, occupe-toi de ça. » J'ai pensé, « Il doit y avoir un autre Bélès dans le coin. » Mais c'est à moi qu'il parlait, et j'étais un jeune chrétien. Mais j'ai lu dans la Bible à propos des mauvais esprits, et j'ai lu que Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons. » Et mon ami, je suis croyant au nom de Jésus. Alors, j'ai marché jusqu'au côté de la colline, et il y avait ce type, ses dents étaient pointées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et je pense qu'elles étaient aiguisées. Et il bavait. Et il y avait une planche avec un clou dedans. Et je vous dis qu'il devenait fou, et j'ai juste pointé du doigt, et j'ai dit, « Au nom de Jésus, assieds-toi. » Et il s'est affalé sur le sol, et il s'est assis. Je suis allé vers lui, et j'ai posé les mains sur lui. J'ai ordonné aux démons de partir. Et vous savez quoi? Ils sont partis. Et plus tard, en lui parlant, j'ai en fait dû lui demander à travers un interprète. Je lui ai demandé s'il savait ce qu'était le paradis, s'il savait ce qu'était l'enfer, et nous lui avons parlé de Jésus. Je sais ce qu'est l'enfer. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il a dit, « C'est comme être brûlé constamment avec un feu, mais sans jamais pouvoir voir le feu. » Oui, ça s'est incrusté dans ma mémoire. Mais de toute façon, Roré n'était pas trop différent. Et il était connu dans les villages des montagnes là-bas, cette région montagneuse où nous étions, comme étant un type possédé par le démon. Il ne vivait pas dans une maison. Il portait des vêtements en lambeaux. Et il était une menace pour tout le monde, comme ce type dans Marc chapitre 5. Était une menace pour tous ceux qui venaient sur son chemin. Et donc, ils ont enchaîné ce type, ils l'ont chassé comme un animal plusieurs fois. Ils l'ont maîtrisé, ils lui ont mis des chaînes et des entraves, mais il tirait les chaînes, il avait une force surnaturelle. Il brisait les chaînes. Mais là, Jésus et les disciples arrivent au bateau et ce type possédé par le démon s'enfuit. Le verset 6 dit, « Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. » Et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Ça continue. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, ce gars n'avait pas seulement un démon, il avait un démon qui le contrôlait, mais aussi tout un tas d'autres esprits impurs en lui aussi. Jésus a chassé ces mauvais esprits de cet homme. Ils sont allés dans un troupeau d'environ 2000 porcs qui se sont précipités dans les pentes escarpées et s'est noyés dans la mer. C'était hors du commun. Et il est dit au verset 14, « Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville. Et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Jésus peut vous remettre dans votre bon sens. Et si vous me regardez en ce moment, peut-être que vous vous sentez concerné par une telle histoire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me regarde quand je dis que les démons sont réels. Vous savez de quoi je parle. Vous vous êtes intéressé à l'occultisme. Vous avez joué avec la sorcellerie ou autre chose, et vous vous êtes mis dans un tas de problèmes spirituels. Écoutez, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est plus fort que le diable. Il peut vous libérer. Vous pouvez être libéré de cette oppression. Vous pouvez être libéré de ces voix que vous entendez tout le temps. Jésus-Christ vous aime. En fait, en son nom puissant, je dis, soyez libre. Et soyez libre maintenant. Vous pouvez être comme cet homme, assis, en paix, habillé et dans son bon sens. Et tous ceux qui avaient peur sont sortis. Ils ont vu, ils savaient qui était cet homme. Ils étaient en admiration. Puis, ils ont dû se dire, « Eh bien, on a perdu pas mal de revenus ici. » Et tous ces porcs se sont noyés dans la mer. Et ils ont demandé à Jésus de partir. Il est dit au verset 18, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Cependant, Jésus ne lui permit pas. » C'est un détail intéressant. Maintenant, je comprends. Si Jésus me libère de cette façon, je veux être avec lui. Merci Seigneur. Il est là, avec nous, par son esprit, et nous pouvons être avec lui. Mais Jésus était alors limité dans l'espace et le temps. Il avait déjà 12 disciples, il avait 70 autres qu'il avait formés. Et Jésus ne lui a pas permis, mais il lui a dit de faire quelque chose. Je veux que vous écoutiez ceci. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tout comme il a eu pitié de toi. » Il y a une traduction que j'aime où Jésus dit, « Va et raconte ton histoire. » Il y a de la puissance dans cette histoire. Il est dit, « Il s'en va et se mit à proclamer dans la Décapole. » Tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'étonnement. La Décapole était une région de 10 villes. Ce type a traversé une région de 10 villes et apparemment tout le monde dans cette région le connaissait. Et il leur a raconté comment Jésus avait eu pitié de lui et ce que le Seigneur avait fait pour lui. Allez voir, mes amis, rentrez chez vous, allez voir ceux qui vous connaissent et racontez-leur comment le Seigneur a été miséricordieux envers vous. Racontez-leur votre histoire. Imaginez ce que ça a dû être. Les gens qu'il avait connus et qu'il avait vus, comment s'était-il retrouvé dans cet état? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait touché à l'occultisme et avait attiré un démon. Peut-être qu'il avait connu un traumatisme qu'il avait brisé émotionnellement et avait ouvert une porte spirituelle dans sa vie. Je ne sais pas. La Bible n'en dit rien, mais nous donne les résultats. Et tout le monde avait entendu ou vu que ce type était un homme sauvage, qu'il se coupait avec des pierres. Il criait jour et nuit. Il hurlait et gémissait comme un animal sauvage et blessé. Il ne pouvait pas être lié avec des chaînes. Tout le monde avait peur de lui. Et soudainement, il débarque. Il n'est plus nu et il n'a pas un regard sauvage dans ses yeux. Il n'est pas couvert de crasse. Ses yeux, ses cheveux et sa barbe sont peignés. Il est propre, il est souriant. Et vous savez, c'est intéressant parce que la Décapole n'est mentionnée qu'une autre fois dans l'évangile de Marc. Notamment quelque temps plus tard, lorsque Jésus revient à la Décapole, cette région de 10 villes, après que cet homme ait raconté son histoire. Et le livre de Marc est le seul évangile qui parle de cette histoire. Dans Marc, chapitre 7, verset 31, il est dit, « Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans ses oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Voici la dernière fois, nous lisions que les habitants de la Décapole, ils disaient à Jésus, « S'il te plaît, va-t'en loin de nous. Nous ne voulons pas de toi ici. » Ils l'ont renvoyé. Mais plus tard, quand il revient, les gens de cette région amènent un homme qui est sourd et a travaillé et a un trouble de la parole. Serait-ce le résultat de l'histoire de l'ex-démoniaque? Peut-être qu'ils ont entendu parler de la miséricorde et de la bonté de Jésus, et soudainement, ils ont appris, après tout ce temps que Jésus était de retour dans la région, et ils se sont dit, « Amenons notre ami, parce que ce gars était né sourd. Mon ami, je vous le dis, il y a une puissance dans votre histoire. Vous pourriez rester. Mais, Bélès, je n'ai pas une histoire dramatique. Je pourrais aborder ce point, peut-être au cours de la prochaine leçon. Je vous parlerai de mon histoire. même si la vôtre n'est pas aussi dramatique que celle de ce démoniaque ou la mienne. Il y a un peu de drame dans mon histoire, dans la façon dont je suis venu à Christ. Vous pourriez avoir une approche différente et parler du jour où vous avez réalisé que vous aviez besoin d'un sauveur. Vous faisiez votre mieux pour vivre une vie honnête en payant vos impôts et en étant un bon chrétien. Vous étiez gentil avec les animaux, vous étiez un bon père, un bon mari, une bonne épouse. Mais un jour, vous avez réalisé que vous étiez perdu et inutile sans le salut que Jésus-Christ fournit, parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, vous êtes venu à Jésus et avez été sauvé. Savez-vous que beaucoup de gens ont besoin d'entendre votre histoire? Parce qu'ils ont le même parcours. Certains d'entre eux pensent, « Eh bien, je suis une bonne personne. Je n'essaie pas de tromper qui que ce soit. Je ne mens pas. J'essaie d'être honnête dans mes affaires. Certainement, s'il y a un paradis, Dieu me laissera entrer. » Mon ami, ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous allons au paradis. Et quelqu'un a besoin d'entendre votre histoire. C'était le cas de ma femme. Je suis issu d'un milieu de toxicomanie et d'alcoolisme avancé. Et j'étais impliqué dans l'occultisme et des choses sombres. Ma femme, par contre, était une fille de fermier du Midwest. Et elle essayait d'être une bonne personne. Mais un jour, elle a réalisé qu'elle était tout aussi perdue que quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui avait une vie folle et faisant un tas de choses mauvaises et des choses honteuses. Et un jour, elle a réalisé qu'elle était perdue et déchue, sans fils de Dieu. En fait, je pense qu'elle avait environ 10 ans, et elle avait des voisins qui étaient chrétiens. Ils étaient baptistes. Merci Seigneur pour les baptistes. La moitié du monde ne serait pas sauvée si ce n'était les baptistes. Et cette précieuse famille baptiste lui donnait des leçons de l'école du dimanche. Leçon de l'Église, de 3 ou 4 pages. Et il y avait des histoires bibliques. Janet les regardait sous son lit quand elle était enfant, et elle les lisait entièrement. Et ils l'ont même emmenée à l'église. Et un jour, ils parlaient du paradis et de l'enfer. Quelqu'un a dit, « Eh bien, on ne doit pas en parler aux petits-enfants. Eh bien, mon ami, le paradis et l'enfer sont réels. Le paradis est réel, l'enfer est tout aussi réel. » Janet a pris la décision ce jour-là qu'elle voulait aller au paradis, qu'elle voulait Jésus dans sa vie, et à 10 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Malheureusement, elle ne reçut pas d'enseignement et ne grandit pas spirituellement. Elle finit par suivre sa propre voie jusqu'à ce qu'elle soit à l'université. Elle avait une colocataire qui était croyante. Et sa colocataire a commencé à aller à une étude biblique catholique charismatique. Et elle a dit à Janet, « Écoute, c'est un peu différent. » Une semaine, une nonne enseigne, et la semaine suivante, c'est un pasteur local qui enseigne, et l'enseignement est très bon. Il faut venir. Et Janet a commencé à y aller. Et l'enseignement était si riche. Ils enseignaient à partir des Écritures, enseignant que les Écritures étaient l'autorité finale et la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et ça a transformé sa vie. Elle a redonné sa vie à Jésus, et elle a été remplie du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Les gens ont besoin d'entendre des histoires comme celle de ma femme, tout comme ils ont besoin d'entendre mon histoire. Et vous qui êtes assis là en ce moment, écoutez, vous avez une histoire. Elle n'est peut-être pas dramatique ou intrigante, mais c'est votre histoire et personne ne peut la raconter comme vous. Dieu va donner du pouvoir à vos histoires. Vous y tissez les graines de l'Évangile. La Bible dit, « Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? » Nous devons ouvrir notre bouche et raconter l'histoire de l'Évangile. Et vous pourriez penser, « Eh bien, je ne suis pas qualifié pour prêcher la doctrine. » Non, vous pouvez parler de Jésus à quelqu'un. Vous pouvez dire à quelqu'un que Jésus sauve. Vous pouvez dire à quelqu'un ce que Jésus a fait pour vous. Et ça peut changer leur vie. Dieu s'en servira. Quand j'ai été sauvé, je suis immédiatement allé voir tous mes amis et je leur ai parlé de Jésus et de ce qu'il avait fait pour moi. D'aucuns en ont été troublés. En fait, j'avais un ami. Nous avions connu des difficultés ensemble. On s'était même fait arrêter dans le Nevada une fois. Nous avions dû aller vivre dans un autre état pendant un moment. Et nous avons pris beaucoup de drogue ensemble. C'était un ami très, très proche. Et quand j'ai été sauvé, Je lui ai fait part de mon histoire et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a dit, « Bayless, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pu l'ignorer. Ça ne pouvait qu'être toi. Ça ne pouvait qu'être toi. » Ce qui signifie que je te connais bien, je sais comment tu as vécu parce que je te connais depuis des années. Je vois le changement en toi, et c'est indéniable. Et maintenant, c'est comme s'il voulait dire, « Que puis-je faire d'autre ? Tu es avec Jésus. Que puis-je faire d'autre ? Ça ne pouvait qu'être toi. » Et certains de mes amis m'ont rejeté d'emblée. Je me souviens que c'était mon meilleur ami quand j'ai été sauvé, et c'est vrai, nous n'avions pas été séparés pendant plus d'un an. Excusez-moi, nous étions tous les jours ensemble, et ce pendant un an, et nous étions si proches. Nous étions toujours ensemble. Nous faisions tout ensemble. Nous sommes allés sur une montagne dans une tempête de neige pour écouter une dame parler aux extraterrestres. Nous avons pratiqué les religions amérindiennes ensemble. Nous prenions de la drogue ensemble. Nous étions ensemble tout le temps, des amis proches. Et j'ai été sauvé. J'ai été radicalement sauvé dans une mission de rue. Et j'ai parlé de Jésus avec lui, et il n'en voulait pas. J'ai fini par le convaincre de venir à l'église avec moi, et il est venu à contre-cœur. Je fréquentais une petite église pentecôtiste, et bien sûr, je voulais m'asseoir à la première rangée. Elle était occupée. Je pense que finalement, on s'est assis au deuxième rang. Mais nous étions toujours à l'avant. Et soudainement, la présence de Dieu est venu d'une manière tangible. Et j'ai pleuré comme un enfant. Je sanglotais, car la présence de Dieu, si épaisse et si réelle, et je me retourne et je le regarde. Et il a un regard de terreur sur son visage. Il me regarde et soudainement je réalise qu'il comprend que c'est réel. Il y a quelque chose derrière tout ça. Il a aussi senti la présence de Dieu. Et ça l'a effrayé. Et il a bondi hors de l'allée, enjambant quelques personnes, et s'est littéralement enfui par l'arrière de l'église. Et à partir de ce jour, à chaque fois que je le voyais, il faisait semblant de ne pas me voir, et il traversait la rue, allait de l'autre côté, pour éviter toute interaction avec moi. Je parle de mon meilleur ami. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi après ça, parce qu'il avait réalisé que cette chose était réelle. Et s'il voulait avoir affaire à moi, il devait avoir affaire à Jésus. Et aujourd'hui, même après 47 ans, waouh, je prie encore pour lui. Un bon nombre de mes amis ont eu la même réaction. Ils ne voulaient rien savoir de tout ça et m'évitaient. D'autres amis à moi sont venus au Christ. Ils ont été sauvés. Il y avait donc deux camps. Un camp m'a abandonné et l'autre camp est venu à Jésus. J'ai eu un autre ami cher avec qui je consommais la drogue. C'était juste ce qu'on faisait. C'était le style de vie qu'on avait. Nous nous connaissions depuis le lycée. Il est venu chez moi un jour et je vivais dans un autre état et j'avais été sauvé. Et je suis venu en Californie pour un moment et il est venu et il avait un gros sac de cocaïne. Il m'a dit, « Bayless, j'ai de la coke. Tu voudrais en prendre ?» J'ai dit, « Mon pote, je ne fais plus ça. » Il était perplexe quand j'ai refusé d'en prendre. Et il m'a dit, « C'est gratuit. Je ne vais pas te prendre de l'argent. » J'ai dit, « Écoute, je ne fais pas ça. Je suis accroché au Très-Haut. Jésus-Christ a changé ma vie. » Et je lui ai prêché l'Évangile. Et il est rentré chez lui. Puis, j'ai reçu un appel. Tard dans la nuit, « Je peux venir ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Il est venu et a dit, « Je ne pouvais pas oublier ce que tu as dit. Je me suis agenouillé et j'ai accepté Jésus. » J'ai dit, « Tu l'as vraiment fait ?» Il a répondu, « Oui, mais j'avais tout ce sac de cocaïne. Je ne pouvais pas supporter de le jeter dans les toilettes, alors j'ai tout sniffé. » Donc, il est venu à la maison en disant qu'il avait accepté Jésus alors qu'il était défoncé. Mais vous savez quoi ? Aussi fou que ça semble, c'était la fin de la drogue pour lui. Et il sert toujours Jésus aujourd'hui, même après de nombreuses décennies. Mais le pouvoir de votre histoire, je lui ai juste dit ce que Jésus avait fait pour moi. et ce que Jésus pouvait faire pour lui. Et mon ami, il faut savoir que Jésus va changer votre vie. Il peut vous libérer de ce qui vous lie. Il peut vous conduire sur un chemin de bénédiction et de paix. Et il veut le faire. Vous êtes aimé par Dieu. N'en doutez jamais. Eh bien, mon ami, j'espère que vous avez reçu quelque chose de ce partage. Et je ne suis pas vraiment entré dans le vif du sujet. Donc, vous allez devoir me rejoindre la prochaine fois. Je vais vous raconter mon histoire. J'irai dans des détails inconnus de ceux qui ont écouté mon témoignage dans le passé. Vous ne devez donc pas manquer ça. Et en attendant, je prie que la richesse de Dieu et ses meilleures bénédictions soient toujours les vôtres. À bientôt.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.